Bienvenue à vous, bravo et merci Sabrina Levoix, Taylo Azaïs et Philippe Lioret, respectivement comédienne, comédien et réalisateur de 16 ans, sorti au cinéma le 4 janvier 2023. Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée scolaire en classe de seconde. C'est un coup de foudre, mais leurs familles seront amenées à s'affronter. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Philippe Lioret et ses comédiens enregistrés au Cinéma Club à Metz lors d'une avant-première.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Peut-on dire, Philippe Lioret, que 16 ans est votre Roméo et Juliette?
Ah, le mien, non, mais c'est Roméo et Juliette revisité, oui, contemporain et revendiqué.
Et le point de départ, racontez-vous, Philippe Lioret, c'est que vous avez rencontré un très jeune couple dans un abribus.
Oui, je tournais, j'avais bien ne t'en fais pas, c'était il y a longtemps, 15 ans. Et à la sortie du lycée où on tournait pas mal de scènes, où on est resté 3 jours, tous les soirs, en sortant du lycée, j'allais récupérer ma voiture et il y avait un abribus. Et sous l'abribus, il y avait un jeune couple qui se serrait dans les bras et qui pleurait tout le temps. Un soir, 2 soirs, 3 soirs. Et un enseignant du lycée m'a dit que, en fait, c'était parce qu'il s'était passé on ne sait quoi entre les deux familles et que c'était pas clair, mais qu'ils n'avaient jamais su ce qui s'était passé, mais les deux gamins n'avaient pas le droit de se voir.
Donc une histoire d'amour contrariée par les familles, et donc on retrouve Roméo et Juliette.
Bah oui, je me suis dit, c'est les Capulet et les Montaigu. C'est incroyable cette histoire, et ça m'a donné l'idée de moderniser ça et d'essayer de comprendre pourquoi les deux familles ne s'entendaient pas, parce que chez Shakespeare, ce qu'il faut savoir, c'est que les Capulet et les Montaigu, on ne sait pas. On dit que c'est deux familles rivales, point, c'est tout. Je suis resté un peu comme ça, intrigué par cette histoire, et puis aussi j'ai découvert un truc formidable, c'est que cette ville en question, là, cette ville de banlieue parisienne, était disposée de la façon suivante. Il y avait l'avenue principale qui traversait le centre historique, le Grand Lycée. À un bout de l'avenue, il y avait les logements sociaux, qui s'appelait la Cité de la Croix-Blanche, j'ai rien inventé. Et à l'autre bout, il y a les boucs de la Seine avec les maisons d'architectes à 2 millions. Et un peu en retrait de cette bourgade, il y a l'hypermarché dans la zone d'activité. Ah, je me suis dit, mais tout est là, c'est comme un décor de théâtre, mais gigantesque en fait. Et le point de départ de tout, c'est que dans ce lycée, tous les gamins se mélangent. Il y a un mélange social et culturel, et un vrai brassage, et que c'est pas là qu'il y a les animosités, vraiment, et qu'en plus, ces deux-là se rencontrent, les deux petits de l'abribus, là, qui, au passage, ils doivent avoir 30 ans aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de que
Mais
j'ai
si
pour
vous
eux.
entendez en parler,
Peut-être ils vont venir me voir. Je les encourage à le faire, à venir. Ouais. Dès le départ, j'avais trois mots en tête, qui étaient tension du récit, mouvement, et puissante intimité des protagonistes, dont je suis sûr que ces trois composantes forment les vraies bases et les vraies racines du thriller. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire un thriller avec ça. C'est-à-dire un film qui soit tendu, rythmé, à la dramaturgie puissante. En fait, je voulais faire du
C'est
cinéma.
qui c'est lui? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré.
Putain, mais t'as fait quoi encore?
Tu traînes plus avec lui pour le final.
Pareil, t'as viré un type à l'hyper?
Parce qu'il a piqué une bouteille.
Et on vire quelqu'un pour ça?
Allez!
C'était qui les autres? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça?
Je me suis pas vengé, je vous dis.
Avec Welcome, par exemple, j'avais pas du tout imaginé que le film allait sortir des pages culture pour rentrer dans les pages société et devenir un truc où, pendant les années qu'on suivit, des années, à chaque fois qu'il y avait un mouvement de migrants quelque part en Europe, j'étais invité dans les radios et sur les chaînes de télé pour donner mon avis. Mon Dieu, je suis pas politique, moi. Je fais des films, je suis cinéaste. Et donc j'ai voulu qu'il y ait du cinéma qui transparaisse là-dedans, quoi.
Mais on peut ouvrir une petite parenthèse Welcome. Moi, je comptais l'aborder, ce film de 2009. Vous étiez venu le présenter à Metz avec Vincent Lindon. Quand même, Welcome a été à l'origine d'une proposition de loi visant à dépénaliser le délit, ou crime d'ailleurs, de solidarité. Et finalement, ce crime n'a pas été dépénalisé si vite que
Alors,
ça, hein.
on est venu me chercher justement pour essayer de faire une révision de cette loi inique là, qui condamne à 5 ans de prison les gens qui aident les personnes en situation irrégulière. C'est pas passé parce que voilà, la droite était puissante à l'Assemblée et qu'ils avaient un mot d'ordre de c'était niet. Au débat, il y a un député de la majorité qui a assisté. Les autres ne sont pas venus. Ils sont juste venus pour voter contre. Et puis voilà, par le calendrier électoral, un jour a fait que c'est la gauche qui est passée au pouvoir. Et là, j'en ai plus entendu parler. Alors je les ai appelés, je leur ai dit, dites donc les gars, là, il serait temps d'y retourner, là. Ah oui. D'un coup, ils voulaient bien y aller, mais ils étaient moins véhéments. Et cette loi, elle a été modifiée, mais de façon cosmétique.
Mais en 2018, finalement, déclarée inconstitutionnelle, mais en 2018. Donc ça a mis un temps fou, quand même.
Oui, mais je vous assure que ça n'a rien changé dans les faits, en fait. Parce qu'il y a toujours des ramifications de loi qui peuvent nous ramener essentiellement à la loi d'origine.
Bien sûr, quand vous êtes venu présenter le film en avant-première à Metz en 2009, vous ignoriez tout ce qui allait arriver.
Évidemment.
Comment avez-vous vécu tout cela? Enfin, on sort complètement de la promo et de la vie d'un film. Enfin, le film est entré dans une autre dimension.
Mais véritablement. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller montrer ma bobine à la télé ou dans les radios pour parler d'un truc qui, évidemment, comme citoyen, me concerne. Mais moi, mon vrai métier, c'est de faire des films. Or, la tribune médiatique, on l'a quand on sort un film, et c'est pas pour aller parler d'autre chose que du film qu'on a fait. C'est pour ça que, comme je vous dis, pour 16 ans, je suis resté, je veux rester, je tiens à rester. Évidemment que le film a des connotations et des échos sociaux et culturels, mais c'est inévitable. On peut pas parler de notre monde et des gens qui le peuplent en faisant l'impasse là-dessus, sauf à rester très très en surface. Il n'était pas du tout question de rester en surface, mais c'est pas le sujet. Et j'ai découvert en le faisant, le film, moi j'étais d'abord très très content de voir que j'allais plus loin de Shakespeare, puisque je racontais pourquoi ces deux familles avaient eu un problème et pourquoi elles s'arrêtaient pas de s'engueuler, parce que c'est d'une violence terrible dans Shakespeare. Ils arrêtent pas de s'entretuer à coups d'épée et tout, donc c'est pas pourquoi. Moi, j'avais une petite idée. Puis au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que Shakespeare, c'était loin d'être un imbécile et qu'en fait, il avait raison de ne pas l'avoir explicité. Parce que ce n'est pas le sujet. Et le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, ce n'est pas pourquoi ils ne s'entendent pas. C'est que ces deux-là, Nora et Léo, là, dans 16 ans, et comme Roméo et Juliette chez Shakespeare, leur problème à eux, c'est d'être ensemble. Et tout ce qui se passe dans la périphérie de leur regard ou de leurs oreilles, ça ne les intéresse pas. Et c'est raconter le combat de ces deux-là pour rester ensemble contre vent et marée. Parce que eux, leurs différences sociales et culturelles, ils s'en foutent, mais complètement. Et c'est la grande, grande force de cet amour indéfectible et de cette première rencontre qui se passe à cet âge-là. Quoi. Entre 15 et 17 ans, il y a une révolution extraordinaire dans l'esprit humain, dans le cerveau, dans le corps, qui crée ce moment absolument magique de, comment on peut appeler ça, on peut dire le goût exquis de la première fois. Et en fait, je crois que il est dû à cet âge, c'est pour ça que le film s'appelle 16 ans, parce que c'est vraiment l'âge révélateur de tout ça, mais aussi, je pense que quand on se rencontre et qu'on tombe amoureux à 30 ans, mais à 40 ans, pendant le moment incroyable de cette rencontre, on a 16 ans dans notre tête. C'est vraiment un âge que moi je regrette, en fait, parce que je sais ce que j'y ai vécu. Quoi.
Léo ? Ok, s'en va là. Arrête, ça va pas ou quoi ?
À ton âge, on fait pas ça. Une fille, ça fait pas ça.
C'est la honte, ça. Jamais je te le pardonnerai, ça.
Mon père sait que je suis allée chez toi, il faut plus qu'on nous voit ensemble, je t'expliquerai.
C'est toi qui la surveille ?
Moi, je te dis que tu me pètes les couilles, ça te va comme ça ?
On peut pas te faire confiance, tu sors plus. Parce que tu te prends pour une femme, tu vas en être une.
Juliette avait 14 ans d'ailleurs, dans Roméo et Juliette, et elle a 15 ans, Nora. Alors, on va pas trop révéler, parce qu'il faut découvrir, et puis qu'effectivement, c'est un thriller, donc il y a un vrai suspense aussi, finalement. Moi, j'aimerais juste dire qu'effectivement, il y a un coup de foudre, et puis on pourrait presque dire que ce qui va perturber finalement la vie de nos deux jeunes amoureux, c'est une bouteille de Château Margaux 2011.
On peut le dire comme ça, mais c'est vrai qu'elle est, cette bouteille est un peu responsable de tout, puisqu'elle est, elle est au départ de l'histoire, puisque sans tout révéler, mais voilà, ils se rencontrent tous les deux au lycée, et puis le frère de Nora travaille comme manutentionnaire à l'hypermarché local, et c'est la foire au vin, c'est la rentrée des classes, et donc on expose des bouteilles, et évidemment il y a une vitrine dans laquelle on expose des très grands crus, qu'on vend jamais, mais ils sont là juste pour le décorum. Et il y a une bouteille qui a disparu, voilà. Et c'est lui qui faisait la mise en place. Donc c'est Tarek qui est évidemment accusé de ce vol. Et puis comme il se défend avec véhémence, un peu trop de véhémence peut-être, le directeur du magasin passe par là, il entend qu'il parle mal à son supérieur hiérarchique. Et comme il ne peut pas les laisser travailler ensemble, il vire celui qui a le CDD. Et c'est là que tout commence, quoi.
Vous avez tourné, dites-vous, Philippe Lioret, avec des gros objectifs, mais une toute petite caméra.
Ouais, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, là, c'est-à-dire cette caméra qui soit très, très mobile et qui les suive, eux, tout le temps, sans qu'on se rende compte que la caméra est mobile. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Je ne veux pas qu'on sente la caméra jamais. Mais comme ils bougent tout le temps, bah, elle les suit. Et en fait, on a découvert que Sony, pour ne pas les citer, a une grosse caméra professionnelle qu'on utilise, qui est magnifique, formidable. C'est un des plus beaux capteurs du monde. Elle est très lourde et très grosse et très volumineuse. C'était très compliqué de tourner avec. Sauf qu'on a découvert que le capteur qui est dans cette caméra, Sony, qui est une boîte multinationale, l'a aussi installé dans un de ses boîtiers grand public haut de gamme. Et donc, on a pris un boîtier grand public haut de gamme. On a mis nos objectifs devant, nos disques durs derrière qui nous permettaient d'avoir du 4K et tout ça. Et en fait, on a tourné tout le film avec ça. Godard, il parlait pendant... Il a demandé toute sa vie d'avoir la caméra stylo, la plus légère possible. Il est mort sans l'avoir eu, et ben nous, on l'a eu.
Ouais. Est-ce, est-ce que, comme Jean-Pierre Mocky, cependant, vous dites moteur, film
non, moi, je dis jamais moteur. Et surtout 47 fois par jour, comme lui. Non, je laisse les acteurs décider de quand ils sont prêts pour tourner. Le film, il est ce qu'il est, mais il y a une chose dont je suis absolument sûr... C'est des acteurs que j'ai trouvés. C'est une merveille quoi, de travailler avec ces deux-là. Tous d'ailleurs. Comme le film faisait la part belle à Nora et Léo, qui, vu leur âge, ne pouvaient pas être des acteurs célèbres, et que c'était donc eux les héros du film, j'ai pas voulu qu'il y ait d'acteurs derrière qui viennent faire les guest stars et vampiriser.
Alors, il y a des acteurs solides en revanche.
Il y a des acteurs solides, formidables, de théâtre ou. Oui, ou majeure partie, c'est des acteurs de théâtre.
Jean-Pierre Lory ou
Marie Dompnier. Et puis une actrice belge, Myriam Akhediou, qui est géniale, qu'on avait vue chez les Dardenne et tout ça. Voilà, le gros casting m'a permis de découvrir Sabrina Levoix et Tello Azaï. Et là, franchement, waouh, quoi.
Vous avez cité les Dardenne. Est-ce que vous avez une méthode de travail comme les Dardenne qui, eux, répètent avant le tournage, mais sur une durée peut-être même plus longue que le temps du tournage.
Hein. Nous, on a répété 3 mois avant le tournage. Oui. Moi, je voulais répéter très longtemps avant le début du tournage pour qu'ils aient oublié les répétitions. Mais comme on a répété tout le film pendant 2 mois, ils l'ont oublié, mais il faisait partie de leur vie.
Et, et après, c'était naturel.
Quand ils n'ont eu qu'à ressortir tout ça d'une façon extrêmement naturelle, ça a donné des moments de grâce absolue où on a fait un plan, une prise. Moi, j'ai une expression qui est toute faite, peut-être, mais qui marque bien, c'est je trouve qu'un film, c'est un cadeau qu'on fait aux gens qui le voient. Et que si on voit le travail, eh ben, c'est comme si on laissait le prix sur le cadeau.
Putain, Léo, si je quitte le lycée, je ne remettrai plus les pieds.
J'ai rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi? Faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus.
T'as assez fait de mal comme ça.
Lâche-moi!
Vous n'avez pas été amoureux, c'est drôle.
Suite de Bravo et Merci, 16 ans, 9e long métrage de Philippe Lioret que nous retrouverons, mais donnons à présent la parole à ses deux premiers rôles.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Sabrina Levoix, c'est votre premier rôle. Nora, dans 16 ans, vous aviez une envie, alors des envies de cinéma, vous regardiez les castings.
Alors moi, je veux faire du cinéma depuis que je suis en CM2.
Ah oui. Donc on peut déjà dire que ça fait quelques années. Alors.
Oui, depuis très jeune, je ne me suis jamais lancée. Et quand je suis arrivée au collège, il y avait des petits cours de théâtre avec mon école. Et les professeurs
c'était une révélation
de... Oui. Et les professeurs de français, elles m'ont motivée à faire du théâtre de plus en plus, à force de me voir jouer pendant les cours. Bah, au fur et à mesure, en arrivant au lycée, j'ai pris mes premiers cours de théâtre et ça s'est bien passé. Mmh. Voilà.
Et donc, du coup, vous avez commencé à regarder les castings et
non, j'ai pas
vous
encore.
Vous avez dit je veux faire du cinéma parce que, bon, entre du théâtre au collège ou au lycée et un premier rôle dans un long métrage cinéma, il y a quand même un bout de chemin.
J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment on trouvait un casting. Déjà, parce que moi, je cherchais sur Internet, sauf que c'était payant et on m'a toujours dit ne fais jamais les annonces payantes parce que c'est pas forcément bien. Donc, j'attendais.
Payant, ça veut dire payer pour passer le casting?
Non, on paye pour avoir accès aux annonces de casting. D'accord. Mais on m'a dit que c'était pas bien, c'est des faux mails, quoi. Donc, faut jamais
faire
ça.
On peut se faire arnaquer.
Exactement. Ouais. Et voilà. Et en faisant, du coup, mes cours de théâtre, j'ai eu la chance, un soir, d'aller à mon cours et de tomber sur une petite affichette qui parle donc de 16 ans et qui parlait de Roméo et Juliette des temps modernes. Et là, directement, j'ai accroché. Donc, j'ai eu la chance parce qu'ils cherchaient une fille de 16 ans. J'avais 16 ans. Nora, déterminée, sensible. Et là, je me suis tout de suite vue. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, il faut bien que je me lance au bout d'un moment. Moi qui ne trouvais jamais de casting, bah, là, il y en avait une.
Donc, mais du coup, Sabrina, c'est votre premier casting ?
Oui, c'était mon tout premier casting. Tout premier casting.
Premier casting et premier rôle, du coup.
Oui.
Ça, c'est une espèce de conte de fées. Hein.
Ouais, bah vraiment, moi, j'ai...
Je ne suis pas persuadée que ça arrive souvent.
Ah bah, j'ai eu du mal à réaliser quand j'ai passé le casting. Je me suis dit, bon, jamais je serai prise. Voilà, il faut bien tenter juste un moment pour voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont te demander pendant le casting, qu'il faut faire.
Et de fait, qu'est-ce qu'on vous a demandé pendant le casting ?
Alors, je suis arrivée, on m'a posé plein de questions. Est-ce que tu sais nager ? Est-ce que,
c'était important dans le film. Ouais.
Même des questions qui ne sont pas nécessaires pour le film. Est-ce que tu parles arabe ? Je n'ai pas parlé arabe pendant le tournage, mais on m'a posé plein de questions. On m'a demandé si j'avais déjà eu de l'expérience, si j'avais déjà fait des choses. Donc je lui ai dit non, on a pris des photos de moi. Et ensuite, on est passé à la scène.
Et la réponse est arrivée longtemps après ?
Oui, au bout de 4 mois.
4 mois ?
Oui, parce qu'il y avait le Covid. Et du coup, tout était en suspens. Donc nous, en attendant, bah, on attendait. Enfin, moi, je ne suis pas passée par un agent, donc je n'étais pas au courant qu'il y avait, que c'était suspendu à cause du Covid. Donc je pensais vraiment juste que je n'avais pas le rôle. Puis ça ne m'a pas étonnée. Je me suis dit, bon.
Même pas de réponse.
Oui, mais bon, je me dis, il y a beaucoup de monde, ils voient beaucoup de monde. C'est un travail énorme. Donc,
vous avez été prévenu comment alors, du coup ?
La personne qui travaillait avec la directrice de casting, c'était un garçon, donc l'assistant de la directrice de casting, il m'avait suivi sur les réseaux sociaux. Et là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit coucou, j'ai pas de nouvelles, tu penses que c'est mort, que quelqu'un a déjà eu le rôle ? Et il m'a dit non, t'inquiète pas, c'est en suspens, c'est le Covid, mais en tout cas, ton profil, il nous a marqué, donc t'inquiète pas, c'est pas mort. Donc là, j'ai commencé à espérer, mais au max. Et au final, bah, j'ai été rappelée 4 mois après par Philippe. Ouais.
En ce qui vous concerne, Théo Azaïs, vous, on peut dire que alors vous avez 20 ans ou peut-être plus maintenant ?
20 ans, ouais.
20 ans. Et on peut dire que vous êtes, par rapport à Sabrina, vous êtes un pro. Vous avez 20 ans et on peut presque dire déjà 10 ans de carrière.
On peut dire 10 ans de carrière. Enfin, 10 ans de carrière, c'est un grand mot. Hein. J'ai commencé, j'avais 8 ans par de la figuration. Et petit à petit, j'ai obtenu mon premier rôle principal quand j'avais 12 ans dans C'est quoi cette famille ? On en a fait une trilogie et là maintenant je suis arrivé sur 16 ans, premier rôle avec Sabrina.
Et vous êtes aussi dans la série Un si grand soleil.
Aussi là depuis, là c'est ma 4e année. Là.
Ah ouais, donc vous avez des projets, alors 3 pour C'est quoi cette famille, entre la grand-mère, le grand-père, enfin, etc. Et Un si grand soleil, plusieurs saisons. Est-ce que dans les avant-premières, ça vous pouvez le remarquer, est-ce que le public d'Un si grand soleil vient voir ces ans tout particulièrement pour vous parce qu'ils sont spectateurs de ce si grand soleil ?
Je ne sais pas si c'est pour moi qu'ils viennent, mais en tout cas, ouais, il y en a pas mal.
16 ans, le film repose quand même sur vos épaules à tous les deux. C'est un, vous le sentez, une espèce de poids sur les épaules ? Enfin, quand vous avez obtenu le rôle, vous êtes dit, mince, c'est nous qui sommes quand même en première ligne là.
Bah, surtout que c'était la première fois du coup que je tournais tout court. Alors là, avoir un grand rôle aussi important, c'est vrai qu'il y a une pression.
Très beau rôle.
Et bah, il y a une pression supplémentaire, ça c'est sûr. Il y a un stress, quoi, on n'a pas envie de se louper. Philippe, il nous fait confiance pour son film, il met tout son âme. Après, on a fait beaucoup de répétitions, donc ça nous a beaucoup aidé. Comme ça, quand on est arrivé sur le tournage, bah, c'était fluide. En vrai, il n'y a pas eu de problème sur le tournage.
Et pour Taylo, bon, en étant plus pro, mais quand même.
Ouais, non, là, c'est vraiment un film qui demandait beaucoup d'investissement parce qu'on est constamment dans l'émotion, dans le mouvement, dans cette relation qu'on doit garder du début jusqu'à la fin.
Pendant le tournage, le soir, après la journée de tournage jusqu'au lendemain, vous en sortiez un peu ou vous étiez... totalement, enfin, vous ne pouviez pas sortir avec vos amis le soir, va faire autre chose. Vous étiez toujours complètement concentré ou pas forcément ?
Non, moi je pense que pendant les 2 mois de tournage, on était à fond. Mais après, on était quand même nous parce qu'on a quand même amené beaucoup de nous dans nos personnages. Mais ouais, non, je pense que pendant 2 mois, on était focus Léo et Nora. J'avais
tellement personnellement peur de perdre le personnage. Enfin, c'est vraiment une fusion entre Nora, Sabrina, Léo et Taylo. Et j'avais tellement peur de perdre ce personnage que j'avais même du mal à regarder d'autres films ou à lire des livres, tellement je voulais être vraiment à fond dans le personnage.
Il y avait des consonances, Sabrina, Nora, alors Léo, Taylo.
Oui, on m'appelle...
Léo, Taylo, ça fait Othello un peu, mais...
On m'appelle Nora depuis que je suis toute enfant, parce que ma sœur, elle s'appelle Nora. Ma grande sœur, du coup, ma mère, elle se trompe tout le temps, elle m'appelle Nora au lieu de Sabrina, donc...
Donc, il n'y a pas de hasard. Et Léo Taylo ?
Bah moi, c'est plus simple de m'appeler Léo. Donc, pendant tout le tournage, je crois qu'on m'a beaucoup appelé Léo.
Ouais.
J'ai changé de prénom pendant le tournage.
Mais vous êtes-vous dit en même temps que vous étiez aussi Roméo et Juliette ?
Oui, bah, c'est l'histoire d'un amour impossible. Donc forcément, On est des petits Roméo et Juliette. On essaye de se battre pour garder un amour puissant.
Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça.
Non, c'est pas les gens que je regarde. C'est Nora, ton prénom, c'est ça? Léo, moi.
Tu serais pas Bélier par hasard?
Pourquoi?
Parce que tu lâches pas.
Connaissiez-vous les films de Philippe Lioret, l'un et l'autre?
Moi, j'en avais jamais regardé. Et là, j'ai regardé Le Fils de Jean.
Pour
et...
rattraper.
Oui. Et je regardais, j'ai regardé Je vais bien, ne t'en fais pas et Le Fils de Jean. Et j'adore. Et je suis encore plus contente maintenant de réaliser que j'ai travaillé avec, avec Philippe Lioret.
Et Taylo?
Je suis un peu le petit cancre. Je connaissais pas et toujours pas regardé. Je sais pas.
Ah, toujours pas regardé?
Non, j'ai un peu honte. J'avoue.
Vous pouvez, là.
Ah ouais, j'ai honte de fou. J'ai honte de vous, je suis un petit canard, j'avoue. C'est vrai, mais je vais regarder. Non, ça,
c'est
vais
marrant
regarder.
Parce que tu vas voir qu'en regardant le film des... enfin, les différents films de Philippe, il y a la même tension dans ces films.
On l'a beaucoup dit, c'est juste, je sais pas pourquoi.
T'as pas le temps, t'es trop une star.
Non, ça y est. Je sais pas, ça doit être parce que tout simplement, j'ai du mal à regarder des films.
À tout court?
Ouais, à tout court, moi j'ai du mal, et on me le dit de plus en plus, mais tout ce qui est film, j'ai du mal.
Donc vous ne serez jamais cinéphile?
Je pense pas.
Ce qu'il aime, c'est provoquer des émotions chez les autres.
Moi, j'aime bien jouer.
Acteur plutôt que spectateur. Il y a deux catégories, il y a ceux qui font et ceux qui regardent.
Il faut que je m'y mette quand même, parce que dans ce milieu-là, on est obligé. Parce que quand on
avoir des références.
Ah, mais bien sûr, parce oui. que, et je le vois de plus en plus, quand on arrive et qu'il y a des discussions sur des films que j'ai pas vus, je suis là au milieu. Ouais, super.
Ça viendra.
Je passe un peu pour un con, du coup, c'est sympa. Mais...
Scorsese, score quoi?
Ouais, non, mais je vais m'y mettre.
Taylo Azaïs et Sabrina Levoix, reprenons la conversation avec le réalisateur du film 16 ans, Philippe Lioret.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Êtes-vous, Philippe Lioret, fan de Tash Sultana?
J'aime bien. Tash Sultana, j'ai cherché pendant des mois et des mois.
Moi,
et
je
ne
connaissais
mois.
Pas, j'ai découvert grâce à vous ce matin, hein, voyant le film.
Pendant des mois et des mois, j'ai cherché quelle était cette chanson, quelle était cette musique que Léo voulait faire écouter, voulait faire découvrir à Nora, voilà, comme un cadeau, quoi. Il n'y a rien qui est plus beau que la transmission d'une musique ou d'une chanson. Voilà. Et puis, et j'ai cherché, et je trouvais plein de trucs, mais qui étaient des trucs connus, ouais. Ou qui pouvaient l'être. Elle, en Europe, on ne connaissait pas du tout. Et je suis tombé sur ce morceau, là, que je trouve génial. Cette chanson est formidable. Ouais. Et puis,
du coup, ouais. C'est une découverte aussi pour un certain nombre de spectateurs.
Ouais. Bah, j'avais déjà fait ça avec Je vais bien. Hein. J'étais allé chercher cette chanson que ce groupe Aaron avait écrit dans sa cave. Personne ne savait d'où il sortait. Et Lily, là, la chanson phare du film de Je vais bien, je me souviens que le jour de la sortie du film, le soir même, le titre était premier téléchargement iTunes. Et ces types qui n'avaient jamais rien fait... un an après, ils ont fait le Zénith. C'est incroyable. Et alors, le film les a beaucoup aidés, mais eux, ils ont beaucoup aidé le film. C'était un échange très constructif.
J'ai une question sur votre premier métier, puisque vous parliez d'écouter, enfin, des dialogues, mais votre premier métier de cinéma, c'était de les enregistrer, les dialogues.
Ah oui, dans une autre vie, j'ai été ingénieur du son.
C'est vrai que les transitions, bon, que des chefs opérateurs passent à la réalisation, c'est probablement plus courant que des ingénieurs du son.
Ouais, ça dépend ce qu'on veut faire comme film.
Ouais. Mais quand alors vous avez aussi beaucoup regardé d'autres grands cinéastes.
Non, mais comme... j'ai surtout travaillé avec des bons.
Oui, avec Michel Deville, avec un autre Michel qu'on a un peu oublié, Michel Drage.
Avec Bob Altman surtout. Et
avec Robert Altman.
Ouais. Et c'est vrai que c'est en regardant travailler ces gens-là que je me suis fait une religion et que voilà. En fait, moi, j'ai commencé. Je suis un littéraire, donc j'avais commencé un peu par l'écriture. Mais voilà, je me sentais pas prêt, j'avais besoin de passer à travers ces fourches codines. Et puis c'est venu un jour, je me suis dit, bon voilà, c'est maintenant.
Tombé du ciel était tombé comment, votre premier... Parce que mine de rien, dans 2 ans, vous fêterez vos 30 ans de réalisation, Philippe Lioret. Donc comment étiez-vous arrivé sur cette histoire de Mehran Karimi et Nassiri, qui est décédé cette année, là, le 12 novembre Donc, et ce qui est incroyable, il a vécu 18 ans à Charles de Gaulle et il est mort à Charles de Gaulle.
Oui, ça m'avait sidéré cette histoire. Je suis tombé sur ce type qui vivait dans un aéroport depuis 6 ans à l'époque, parce qu'il pouvait ni rentrer ni sortir. Il pouvait ni rentrer sur le territoire, il allait en prison, ni sortir parce qu'on le renvoyait en Iran où on lui coupait la tête. Le type était dans une telle impasse qu'il restait à Charles de Gaulle. Je me suis dit, il y a une métaphore formidable à faire, il y a un film à écrire. Il y a... voilà. Et donc voilà, j'ai fait Tomber du ciel. Et alors il se trouve que, pour la petite histoire, Tomber du ciel est allé dans un festival à Los Angeles. Et que voilà, il y avait probablement dans ce festival des spectateurs et que quelques années après, il y a un scénariste que je soupçonne d'avoir vu le film, qui en a écrit un autre et qui l'a confié à Steven Spielberg, qui s'appelait Terminal. Et on m'a appelé un jour, des confrères à vous m'ont dit, mais il faut que tu viennes voir ça. C'est pompé sur ton film.
Vous êtes crédité au générique de Terminal ?
Non, pas du tout. Non.
C'est pas marqué inspiré de ? Non, pas du tout.
Non, rien du tout. Mais j'ai vu le film et je n'allais pas aller me bagarrer contre Steven Spielberg. Ben non, surtout que je l'aurais fait bien volontiers si j'avais trouvé que le film était bon. Mais j'ai trouvé que le film n'était pas bon. C'est probablement le pire film de Spielberg. Quoi. Parce que le point de départ me plaît beaucoup, mais après, ça, on est vite dans le n'importe quoi. Et j'ai vu aussi la méthode américaine se mettre en place. C'est-à-dire que nous, on tourne dans un vrai aéroport avec des vrais gens. Eux, ils reconstruisent un aéroport dans un hangar. C'est-à-dire que ça coûte 50 000 fois plus cher et que le résultat est 20 fois moins bon, quoi, visuellement. Et comme là, par exemple, sur 16 ans, on a, sans déflorer le film, il y a une scène dans le RER qui est un peu épique à la fin. Je sais comment on l'a faite et je sais comment elle serait faite dans un film américain. Dans un film américain, ils auraient une gare à eux, un train à eux, 2000 figurants. Enfin voilà, nous, on a tourné ça live, quoi.
Comment peut-on être confiant, Philippe Lioret, votre film sort le 4 janvier, quand on est réalisateur, qu'on réalise pour le cinéma aujourd'hui, parce que si on tourne pour les plateformes, c'est probablement différent, mais de sortir un film dans ce contexte, on se rend compte que c'est une vraie galère pour 90% des films français qui sortent en salle, et c'est mieux pour quelques grosses machines, mais compliqué quand même. Hein.
Très compliqué, ouais. Bah, on ne peut pas être confiant. Non. Si vous voulez, quand je vois les avant-premières et que je vois la réaction des spectateurs, je me dis, ah, le film, ils l'aiment, quoi. Ils nous disent des choses, vraiment, ils viennent vers nous pour nous dire à quel point ils ont aimé le film. Bon, mais est-ce que ça va suffire pour les faire quitter leur fauteuil et venir dans les salles ? Je finis par en douter, là. On attend un miracle, en fait, parce que ça marche pas, quoi. Donc, voilà, le film sort le 4 janvier, et nous tous, on a tout mis dedans, quoi. J'essaye de me faire à l'idée que le film ne va pas marcher pour pas m'écrouler. Parce que là, ça fait, en plus de tout le travail qui a été fait, comme sur tous les films...
Vous ne tournez pas un film par an, hein, Philippe Lioret.
Je fais un film tous les 3 ans. Ouais. En plus, celui-là, c'est un film Covid, donc il y a eu une année en plus. Et puis, je l'ai accompagné comme jamais. On fait presque 75 avant-premières en France. C'est énorme, quoi. Donc, allez, venez.
Merci beaucoup, Philippe Lioret.
Merci à vous, merci à vous.
Bravo et merci Sabrina Levoix, Taylo Azaïs et Philippe Lioret. 16 ans sort au cinéma le 4 janvier 2023. Merci à l'équipe du club à Metz. Réalisation Roman Feocchio avec la complicité de Tristan Mezzaros.
Respect et chapeau.